Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Une émission qui, comme tous les dimanches, comprend un plat du jour et une madeleine. Une madeleine aujourd'hui avec l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf qui partagera avec nous l'émotion gustative de son enfance. Et pour notre plat du jour, hommage aux premiers légumes de printemps et aux fruits de saison avec un focus sur la cuisine dite 100% végétale.
Je me souviens de la cantine et de cette viande bovine que dévoraient tous mes copains. Moi, je mangeais de la salade et du céleri rémoulade. C'est vrai, j'avais une petite mine, pareil, je manquais de protéines. On m'appelait le freluquet. J'étais tout seul à la récré, mes parents se désespéraient. Et dans les soirées barbecue, moi, je croquais des légumes crus. Je suis vegan et je le prouve. Même l'omelette, je désapprouve. Je fuis le steak comme la peste. Je suis vegan et je le reste. Je suis vegan, je veux des légumes. Je suis vegan et je l'assume. Je mange de la poudre de protéines avec ça j'ai la taille fine. Je suis vegan, où est le crime? Vous qui volez chez les babines, à la seule vue d'un tourne-dos, pensez un peu aux petits veaux et en lieu et place du gigot. Essayez donc les artichauts.
Une petite pointe d'humour par chanson plus bifiorée pour commencer cette émission qui nous montre d'ailleurs combien la cuisine végane est encore sujette à dérision, réputée ennuyeuse, voire triste et chère, en tout cas par celles et ceux qui n'en sont pas adeptes. Or, il semblerait que la cuisine végane qui a le vent en poupe, notamment chez les jeunes cadres urbains, soit au contraire une cuisine savoureuse et gourmande à tel point que le guide Michelin a récompensé d'une étoile au début de l'année 2021 le premier restaurant 100% végétal. Alors est-ce que le burger aux lentilles corail et le velouté de petits pois peuvent remplacer la blanquette de veau et la sole au beurre blanc sans qu'on éprouve un sentiment de frustration? Deux invités aujourd'hui pour démontrer que oui, Claire Vallée, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est vous qui êtes la chef du restaurant Ona, Ona pour origine non animale. Vous êtes située à Arès en Gironde et c'est vous donc qui êtes la première chef au monde à avoir vu sa cuisine végane récompensée par le guide Michelin donc cette année en 2021. Et puis avec nous, Glory Cabé, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes une chef nomade, traiteur. Vous travaillez chaque jour à proposer, via votre compte Instagram notamment, des plats afro aussi beaux que bons. Et on dit dans les milieux autorisés, Glory Cabé, que vous êtes l'une des figures de proue de ce qu'on appelle l'afro-véganisme. Et je voudrais qu'on commence justement avec vous deux par quelques considérations générales et peut-être un petit exercice de définition, justement. On parle de 100% végétal, de vegan, de végétarien, de végétarien. Est-ce que ça dit grosso modo la même chose ou est-ce qu'on dit 100% végétal parce que c'est un peu plus fédérateur que vegan qui a quand même une connotation encore plutôt péjorative dans certains cas, en tout cas Claire Vallée.
Bon, déjà, il y a une différence entre le végétarien et le vegan. Il y a une différence de taille dans le sens où le vegan n'utilise pas d'œufs, de tout ce qui est issu de l'animal. Donc on va parler également donc de miel, etc. Tout ce qui est de
oui, issu du produit animal.
Du produit animal complètement et du lait, de la crème et du beurre, etc., etc. En enlevant la viande forcément et le poisson. Donc il y a quand même déjà une différence de base. Après, entre le vegan et le végétal, c'est juste une question. Ben, on va dire que le vegan va aller jusque dans le système de porter des vêtements, etc. Donc pas de cuir, pas de laine, etc. Aussi dans la façon donc les produits non testés sur les animaux, donc tout ce qui parle de cosmétiques, etc. Le végétalien prendra peut-être moins ça en considération. Après c'est peut-être plus simple en France de parler de végétal parce qu'il y a une connotation qui est quand même assez négative autour du vegan depuis quelques années. Il y a eu quand même des actes un peu extrémistes, on va dire, contre des boucheries, etc. Et donc il y a une sorte un petit peu de d'incohérence entre les deux où les gens comprennent pas vraiment ce que c'est, pourquoi, etc. Pourquoi il y a une telle haine. Je pense que c'est juste des militants extrémistes et qu'il faut juste replacer les choses dans leur contexte et pas faire des généralités non plus de tout ça. En tout cas, moi je suis pas du tout une ayatollah du véganisme, bien au contraire. Je prends de la différence et puis je pense que chacun a sa place. Moi, je me bats plutôt contre, on va dire, l'industrialisation, voilà, que ça soit dans la viande, dans le lait, etc., ou même dans le légume, qui font des ravages sur la santé, sur les animaux et forcément sur l'écologie aussi. Mais les gens qui font des petites choses dans leur coin, des petits paysans qui travaillent bien la terre ou qui travaillent bien sur l'animalier, oui, il en faudra. Et puis de toute façon, ça sert à rien de vouloir provoquer les gens en leur imposant du végétal. Je pense que c'est en proposant, en ayant des forces de proposition, qu'on peut amener les gens vers les clients ou vous vers une offre végétale.
Laurie Cabé a la définition du végétalisme, du véganisme que vient de donner Claire Vallée. Vous ajoutez donc afro-véganisme. Alors de quoi parle-t-on ?
Alors ici, quand on parle d'afro-véganisme, déjà, on rejoint totalement ce qui a été annoncé par Claire juste avant. C'est-à-dire qu'on parle d'une démarche, comment dire, écologique, aussi médicale et mondiale, mais on parle aussi d'une mise en avant d'une culture qu'on connaît finalement assez peu. Je pense que les idées qu'on peut avoir sur la cuisine afro, elles peuvent être assez restreintes. Je pense que pour la plupart des gens, ça peut se résumer à un mafé et un yassa, tandis qu'en fait, c'est beaucoup plus large. Et moi, mon travail dedans, c'est en fait tout simplement de promouvoir ces cuisines africaines. Je mets un point d'honneur à préciser les cuisines africaines, parce qu'il y en a plusieurs. L'Afrique étant un continent, il y a plusieurs influences, différentes cultures, différentes inspirations. Et aussi, moi, ce que je vais mettre en avant aussi, c'est les cuisines africaines qui ont voyagé. Et mettre en lumière les différentes diasporas africaines dans le monde via leur cuisine et via leur cuisine végétale.
Claire Vallée, vous disiez qu'aujourd'hui encore, la cuisine végane, c'est pour ça que vous préférez parler de végétal, en France en tout cas, encore une connotation négative. L'Assemblée nationale a pérennisé l'obligation de proposer au moins une fois par semaine un menu, alors végétarien pour le coup, hein, pas végane, aux élèves. Mais on a vu par exemple que l'introduction de menus sans viande dans les cantines lyonnaises n'était pas allée sans susciter un certain nombre de polémiques et de violents rejets. Est-ce que vous diriez que malgré tout, les mentalités sont en train de changer, c'est quand même encore marginal, hein. Le véganisme, le végétarianisme même, c'est 5% des Français. Est-ce que vous constatez, vous qui êtes une chef cuisinière au fourneau quotidiennement, que ça bouge quand même ?
Bah oui, on le constate aussi parce qu'on a une offre aussi qui se passe dans les autres, qui est faite dans les autres restaurants aussi, hormis le mien, des restaurants traditionnels qui proposent des plats véganes ou végétariens de plus en plus. Hein, ça c'est quelque chose qui est quand même qui a souligné les chefs étoilés aussi ou d'autres chefs qui ont aussi des offres de plus en plus végétales.
Alors c'est pas nouveau parce que Alain Ducasse il proposait déjà un menu tout légumes à la fin des années 80. Il y a eu Alain Passard, Michel Brasse, il y a 20 ans. Hein.
Mais c'est pas nouveau, mais on voit que ça c'est quelque chose qui est en train de pousser quand même. C'est de plus en plus, on est en train de végétaliser la cuisine d'une certaine façon. Et il n'y a pas que ces chefs-là, mais il y a aussi des chefs de tous les jours aussi. Moi, je le vois autour de moi, des chefs qui sont dans ma région et qui proposent quand même aussi quelque chose à souligner. Et vraiment, c'est la saisonnalité. Ça, c'est quelque chose que je commence à voir aussi. C'est qu'on se fournit localement, avec des petits producteurs locaux, avec une agriculture qui est beaucoup plus raisonnée et avec de la saisonnalité. Ça, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans l'assiette. Donc, il y a quand même cette réflexion dans le fait de meilleur manger, mieux et d'être en plus d'être plus en phase avec la nature aussi et les éléments. Donc, ça, c'est quand même une preuve aussi qu'il y a un changement de mentalité. Et puis, on l'a vu avec le Covid aussi. On l'a vu où les gens allaient de plus en plus dans les AMAP, etc., aller se fournir chez les petits producteurs, etc., qu'au supermarché.
Oui, mais peut-être aussi que le fait que vous-même, Claire Vallée, ait obtenu une étoile au Michelin en 2021, c'est le signe peut-être d'un changement des représentations. En tous les cas, le début d'un signe, puisque c'est une reconnaissance par le plus haut guide gastronomique français.
Bon, bien sûr, mais je pense que le Michelin est intelligent et va aussi dans son temps. On ne peut pas non plus rester dans des schémas qui sont anciens et qui sont étouffants. On sait très bien que qu'on est en train de, que les populations sont en train d'exploser, etc. On va pas pouvoir nourrir tout le monde avec de la viande, et surtout pas de la viande de mauvaise qualité qui rend les gens malades. Je parle pas des petits producteurs qui font du bon travail. Je parle des choses qui se passent un peu en France et surtout à l'étranger. Voilà, avec des fermes qui sont juste, qui abondent d'animaux qui sont en souffrance et malades, etc. C'est, y a des choses qui sont à repenser et on pourra pas continuer dans ce sens, et on le sait de toute façon. Donc le végétal, c'est pas la solution, c'est pas la réponse, mais c'est une des réponses qu'on peut apporter.
Glory Cabé, le véganisme, le végétal plaît notamment aux jeunes cadres. C'est assez socialement marqué. C'est plus souvent encore, en tous les cas aujourd'hui, porté par des femmes. On dirait d'ailleurs que vous êtes un peu toutes les deux cœurs de cible, d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez que vous y êtes venu aussi, vous, par ces trois phénomènes réunis, ou c'est un phénomène de génération pour vous? Comment ça s'est passé?
Je pense que c'est un mélange de tout ça, mais aussi un phénomène de génération. Parce que comme on est en train de l'expliquer, là, en France, en 2021, on décide d'inclure des repas végétariens dans les repas qui sont servis à l'école. Et je pense qu'il y a tout simplement une prise de conscience au niveau que ce soit de l'éducation ou aussi au niveau des jeunes. Moi, je vois beaucoup de jeunes personnes, en fait, concernées par le climat, leur alimentation. Et je pense qu'il y a plusieurs phénomènes, que ce soit nous-mêmes, la période qu'on est en train de traverser, ou bien tout simplement aussi le fait qu'il y a de réels messages qui nous sont envoyés depuis un moment, et que en fait les jeunes, ce sont le futur, ce sont eux les futurs chefs, ce sont eux les futurs consommateurs, ce sont aussi les futurs décisionnaires. Donc je pense qu'il est important, en tout cas, que ce soit aussi ces personnes-là qui soient mobilisées, sensibilisées autour des questions du bien-être.
Est-ce que c'est votre clientèle, essentiellement?
Pas uniquement. Non, pas du tout. Pas uniquement, justement. Je suis contente de pouvoir dire que j'ai une clientèle qui peut aller de 18 à 65 ans, littéralement, et que peu importe leur âge, en fait, ces personnes, elles se retrouvent dans cette alimentation, et parfois, elles sont pas véganes elles-mêmes, elles sont juste curieuses, mais curieuses de pouvoir apprendre à se faire plaisir autrement, avec un peu plus de conscience, j'imagine. Et j'ai commencé à travailler en Angleterre, où le véganisme était beaucoup plus développé. C'était en 2015. On va dire qu'il y a quelque chose comme 20 ans d'avance. Je suis revenue en France en 2017, où j'ai commencé à travailler dans différents restaurants véganes. Du coup, j'ai vraiment pu, à Paris, je tiens à préciser à Paris, j'ai vraiment pu assister à l'émergence du véganisme à Paris, que ce soit le développement de différents restaurants, la création carrément de petits quartiers véganes, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et je suis vraiment contente, en tout cas, de pouvoir dire que c'est en train de gagner les consciences générales. Ça n'appartient plus uniquement à un groupe de personnes. Et je pense que c'était nécessaire et qu'on avance au moins dans une direction qui est saine.
Claire Vallée, même question pour vous. Qui vit à Aona? Quelle est la clientèle?
C'est la même chose. On est sur une amplitude de 18 à 65, 70 ans. Surtout le dimanche, on a plutôt des familles et des personnes âgées qui viennent, qui sont très curieux, qui viennent par rapport des coupures de presse, qui vont venir par le bouche à oreille, qui vont être intéressés, curieux, ou alors pas du tout curieux, mais qui sont aussi dedans. Ça dépend. Moi, j'ai des chasseurs, j'ai des pêcheurs, j'ai aussi des gens qui sont pas, ou des bouchers, ça m'arrive aussi, qui viennent aussi manger par curiosité, qui ressortent avec beaucoup d'émotions.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment ils ressortent?
Ils sont émus, finalement. Parce que, j'ai une cuisine qui est construite autour, de la saisonnalité, qui est construite autour de marqueurs forts et aussi locaux. Ça, c'est très important. Donc, de petits producteurs, etc.
Pourtant, vous êtes installé à Arès, oui, en Gironde. Donc, c'est le pays des huîtres, c'est le pays du pâté de canard.
C'est un peu cliché, mais
ouais,
oui,
évidemment.
Oui, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a ce côté aussi d'être avec la région et d'être d'être acteur de son territoire et de travailler avec des acteurs du territoire. Ça monte, ça donne aussi envie aux gens de voir ce qui se passe dans l'assiette. Voilà. On ment pas, on va pas faire venir des produits qui viennent de l'autre bout du monde, etc. C'est vraiment une typicité aussi de ma cuisine, c'est de se nourrir en local au maximum. Hein. Bon, forcément, quand il y a des épices, des choses comme ça, on va travailler avec des chercheurs d'épices qui vont chercher des épices à travers le monde, mais avec des chartes, parce qu'on travaille toujours avec des chartes, c'est-à-dire que les gens soient bien rémunérés, qu'il y ait une bonne qualité aussi du produit, etc.
C'est tout un ensemble.
Oui, et ça joue. Donc,
de
du
la
coup,
cuisine.
Il y a une l'éthique. Il y a aussi la beauté, il y a aussi le goût qui fait...
On va y venir, parce que vous disiez que votre clientèle, qui n'était pas nécessairement végane, Claire Vallée, se ressortait de vos restaurants avec beaucoup d'émotions, alors que on a quand même encore cette image d'ascétisme ou de restriction qui va avec la cuisine végane. En gros, on pense que c'est pas très drôle, mais on va voir que non, pas du tout. Vous allez nous expliquer ça toutes les deux. Après la Madeleine de Matteo Caranta, il est 12h15 sur France Culture.
L'idée, c'est quand même de définir le légume comme un grand cru. Je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera d'une carotte comme on parle aujourd'hui du chardonnay ou du sauvignon. Vous avez toute cette petite variété de radis, le radis vert, la fameuse betterave couchée de soleil, la betterave orange, une très jolie couleur. C'est un bonheur quand vous avez ça sous les yeux, quand vous avez ça dans votre cuisine, vous êtes obligé de faire de la bonne cuisine. Regardez ces petits poireaux, ces jeunes poireaux.
Et ça, c'était le chef Alain Passard en 2007. Vous voyez, il était déjà un précurseur. Il est donc 12h15 sur France Culture. Dans les bonnes choses, le dimanche, c'est l'heure de la Madeleine. Bonjour Mathéo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Qui donc avez-vous rencontré cette semaine pour nous confier son souvenir gustatif d'enfance?
C'est Riyad Satouf, le dessinateur de bande dessinée qui a publié cet hiver L'Arabe du Futur 5, qui nous a confié sa Madeleine. Dans L'Arabe du Futur, il raconte son enfance partagée entre la Syrie rurale et la France, pays avec lesquels il entretient parfois des relations contradictoires. Et bien pour sa Madeleine, il a d'abord hésité à nous parler des McDo syriens ou du jus de raisin chimique et soviétique découvert dans ses premières années en Libye, mais finalement, c'est le réconfort qui l'a emporté. Et chez Riyad Satouf, le réconfort est breton.
Alors ma Madeleine à moi, je dirais que c'est la galette bretonne, la galette de sarrasin que je mangeais en Bretagne, donc que ma grand-mère me faisait. Donc c'est donc une galette constituée de farine de sarrasin, donc de blé noir, avec de l'eau, et parfois on met un peu d'œuf dedans, qui ensuite est cuite dans du beurre. Alors il y a tout un tas une grande quantité de recettes, notamment ma préférée, moi bien sûr, c'est la galette complète. Donc c'est une galette dans laquelle il y a du fromage, un œuf et du jambon ou du lard. Et pour moi, quand je mange ça, c'est déjà, moi je pense que mon rythme cardiaque baisse énormément et ça me ramène tout de suite à l'enfance, au plat que me faisait ma grand-mère bretonne, notamment quand j'étais à l'école dans ce petit village près du Cap Fréhel où je rentrais parfois manger le midi. Elle me préparait une galette et donc vraiment, je crois que c'est mon plat préféré. Et donc j'ai appris à faire mes galettes moi-même. Et alors la galette complète, il y a plusieurs écoles, donc il y a ceux qui la cuisent beaucoup et donc la galette est croustillante, ou ceux qui aiment bien la voir bien molle avec l'œuf à peine cuit. Et donc moi, j'aime bien de temps en temps croustillante, de temps en temps mou. Ça fluctue. Alors, une galette complète, telle que le faisait ma grand-mère, donc elle la pliait en deux, ce qui fait que c'est une sorte de demi-lune. Elle est brune et elle est un petit peu grillée. Et donc elle a une odeur de beurre fondu parce que c'est cuit dans du beurre fondu. Et en même temps, le fromage, donc l'emmental qu'on met dedans ou le comté, au choix, on peut mettre d'autres fromages, mais c'était plutôt de l'emmental fondu. Ça sent aussi une bonne odeur. Alors on coupe, c'est croustillant, hop. Et à ce moment-là, donc l'œuf à peine cuit coule légèrement avec le fromage. Et alors là, c'est vraiment... Il y a le jambon qui est un peu plus froid parce qu'on met la tranche de jambon juste à la fin. Et donc, l'alliance croustillant de la galette plus la fraîcheur du jambon plus l'œuf à moitié cuit et le fromage fondu, c'est salé, c'est un équilibre de goût absolument incroyablement génial. Et alors, on peut manger aussi la bordure de la galette dans laquelle il n'y a pas de jambon, il n'y a souvent pas d'œuf, il y a juste la galette croustillante avec quelques petits morceaux de fromage et après on remonte. Enfin, tous les Bretons, et au-delà d'ailleurs, tous les gens qui aiment la galette vous diront la même chose, c'est un des meilleurs plats du monde. C'est un chef-d'œuvre.
Bon ben vous voyez, Claire Vallée, ce qu'il vous reste à faire et Glorica B, c'est-à-dire arriver à surmonter ce défi de nous donner autant envie, sans beurre, sans fromage, sans œuf, sans jambon, pour que nos rythmes cardiaques baissent comme le sien, Riyad Satouf. Alors, comment on fait pour manger aussi bon et pour avoir les papilles en éveil avec la cuisine que vous faites? Bah déjà, donnez-nous envie.
Bon, déjà, ça passe par le visuel, hein, forcément, hein, parce que l'œil déjà se régale de la couleur, de la fraîcheur, du croquant, des transparences, etc., qu'on peut mettre déjà dans le visuel de l'assiette. Après, forcément, bah, quand vous le mettez en bouche, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, ça s'appelle. Moi, je joue sur l'umami. J'ai surtout vécu en Thaïlande, etc. Et j'en ai ressorti quelque chose où il fallait toujours avoir un équilibre entre le salé, le sucré, l'acide, l'amer, etc., le croustillant, voilà. Et ça, c'est une typicité de ma cuisine. C'est quelque chose que je cherche continuellement. Donc, j'ai une cuisine qui est vraiment axée sur déjà les plantes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on cultive au sein du restaurant, autour du restaurant et en partenariat avec un maraîcher local. Donc j'ai 140 herbes différentes. Donc ça amène aussi un caractère très floral, très 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 astringent aussi ou acide, etc. à travers le végétal, la feuille. Il y a le côté aussi le moi j'adore le citron. Donc c'est quelque chose aussi. Il y a de l'acidité dans ma cuisine. Il y a du salé aussi parce que j'adore la salinité. Et il y a aussi l'épice. Donc ça c'est quelque chose aussi que je travaille aussi. Donc comme je vous ai des chargeurs d'épices, etc. Et donc, tous ces jeux de textures.
Oui, qui donnent aussi une dimension ludique, finalement, parce que vous jouez sur le croquant, le cru, le cuit, l'acide, voilà, la rosée.
Et vous allez aussi prendre avec les doigts. Vous allez avoir des gestes aussi de la part des serveurs qui vont venir vous déposer quelque chose dans la main. Donc, vous allez manger avec la main. Vous allez devoir vous servir quelque chose. Donc, vous avez aussi ce côté où c'est vous qui êtes acteur aussi de votre assiette. On va, je sais pas, il y aura des fumages aussi ou des flambages. Voilà. On essaye aussi toutes les techniques et on essaye de vous faire participer au cœur, en fait, du plat. Ce qui fait que, finalement, quand vous avez fini, il faut savoir que c'est un menu qui est long, qui a à peu près de 10 plats de déclinaison. Et c'est sur un thème. Donc il y a toujours un thème. Donc déjà, il y a la saison qui est là. Mais il y a aussi un thème, je ne sais pas.
Ça une couleur
peut être une couleur. Ça peut être mon enfance, quelque chose qui se passe sur mon enfance. Ou un voyage, ou quelque chose qui m'a émue. Et je vais raconter une histoire. Donc en fait, il y a un liant dans tous ces plats, dans toutes ces déclinaisons. Il y a un liant qui fait que bah, vous arrivez à la fin et vous avez une vraie émotion. En fait, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est pas que des plats qui sont juste à position de plat pour faire des justes à position de plat, mais c'est vraiment une histoire. Et pour raconter une histoire, on peut pas la raconter à travers d'un plat. Enfin, pour moi, j'ai besoin de la libérer aussi, d'avoir juste un plat avec tout dedans. Je vais la disséquer et on va l'amener comme ça petit à petit. Et vous avez l'explosion finale à la fin, voilà.
Ça, c'est que vous ne nous révélerez pas manifestement.
Voilà, mais souvent, je fais souvent des desserts légumiers aussi. Ça, c'est quelque chose qui est une typicité aussi de ma cuisine parce que je trouve que c'est intéressant de les mettre aussi dans le sucré, mais voilà. Donc c'est tout un jeu entre vous, entre moi, entre le serveur qui est là pour vous présenter ça et entre l'assiette et l'élément qui est important.
Pour être allé voir les photos que vous avez prises de vos plats Claire Vallée sur votre site, tout a l'air succulent, en effet. Et en plus, on a cette idée qu'avec une étoile Michelin, forcément, les prix vont avec. Et il se trouve qu'à Ona, en tous les cas, sur le site, c'est ce que vous affichez.
Ça va changer. Hein.
Ça va peut-être changer. Bon, bah, pour l'instant, c'est deux menus à le midi avec trois plats à 24 euros et un de sept plats le soir pour 59 euros. Oh, bah, non, laissez-les comme ça pour que ce soit encore accessible à tous. Bon, à vous, Claire, à vous, Glory Cabé. Donnez-nous envie avec votre cuisine à vous.
Je pense que un peu comme Claire, pour moi l'essentiel c'est d'avoir un mélange à la fois de créativité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, je trouve, de storytelling au final à travers la cuisine. On n'en parle pas assez souvent, mais je sais que pour pouvoir créer des plats, je pense que
on a perdu Glory Cabé, qui était en plein en train de nous raconter quel type de plat elle fait dans sa propre cuisine. En attendant que nous retrouvions Glory Cabé, nous allons nous tourner vers Claire Vallée pour vous demander, Claire Vallée, on l'a retrouvée, me dit-on. Est-ce que vous êtes à nouveau avec nous, Glory Cabé? Donc vous avez été interrompue au moment où vous alliez nous raconter votre cuisine. Et vous avez été...
Malheureusement, oui, désolée. Donc comme je vous disais, c'est vrai qu'il y a ce côté storytelling qui est important pour moi, où je vais partir d'un souvenir.
Et nous n'en saurons. Là, donc ça saute. On va essayer de Glory Cabé, on va essayer de vous retrouver sur une ligne un peu meilleure, parce que là, c'est coupé, entrecoupé, et donc les souvenirs, on aura entre l'histoire et les souvenirs que très peu de bribes. Donc je me tourne vers Claire Vallée pour vous demander, Claire Vallée, si la cuisine végane que vous proposez, pour celles et ceux qui ne cuisinent pas encore végane, et qui ont l'habitude du beurre, de l'œuf, pour faire des gâteaux, des quiches, vous en faites quand même. Donc quels quelles sont les techniques pour remplacer les protéines que vous n'utilisez plus? Par exemple, si on parle de la meringue, est-ce que vous parleriez de l'eau de cuisson qui sert pour faire la meringue chez vous?
Exactement. Bah, en général, pour faire de la meringue, on utilise l'aquafaba. L'aquafaba, c'est de l'eau de pois chiche. En fait, c'est de l'eau de cuisson de pois chiche qu'on fait réduire. Et donc, ça a une particularité, c'est que ça foisonne. Comme vous le mettez dans un mixeur, un robot, et ça incorpore de l'air. Et vous avez une mousse qui se crée. Et vous allez la fixer avec du sucre pour faire votre meringue, comme une meringue de classique, en fait. Et on peut aussi utiliser toutes les eaux, en fait, de légumineuses, donc on peut faire avec de l'haricot blanc, de l'haricot rouge ou de la lentille, mais on va dire que le pois chiche est plus neutre, donc plus intéressant à travailler.
Voilà. Glorie Cabé, on parle des techniques pour remplacer les protéines animales dans la cuisine. Vous utilisez par exemple le gombo pour remplacer l'œuf.
Oui, moi c'est ma petite astuce afro-végane. En fait, avec le gombo, il y a cette petite bulle qui bille à l'intérieur, qui au contact de la chaleur crée cette petite sève ou cette texture un peu gélatineuse qui est vraiment ressemblante à celle du blanc d'œuf. Donc c'est mon substitut au blanc d'œuf pour les réalisations de pâtisserie et autres.
Alors, quels sont les plats typiques de votre cuisine à vous?
Je pense que ouais, c'est assez large, mais on va dire que c'est assez difficile. J'aime jouer avec la street food, j'aime jouer avec des plats un peu plus délicats. J'ai du mal à choisir un plat typique. Je serais plus à l'aise de choisir un aliment que j'aime travailler.
Oui, dites-nous.
Plutôt qu'un plat typique. Alors, c'est vrai que moi, un peu comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que j'aime partir d'un souvenir d'enfance en grandissant. Ma mère nous a toujours appris à consommer régulièrement de la banane plantain, du manioc, ou alors de la pâte à douce. Et pour être très honnête avec vous, il y a beaucoup de fois où j'ai pas toujours aimé. Et beaucoup de fois, j'ai pas toujours aimé. C'était un petit peu difficile, peut-être parce que je voyais que sous une seule forme. Et ensuite, ma première idée, lorsque j'ai décidé de me tourner vers cette cuisine afro-vegan, c'était de comment est-ce que je vais pouvoir décliner ces aliments de manière à ce que je puisse, moi, les apprécier et ensuite faire partager l'appréciation que j'ai pour ça. Donc, je suis tout simplement devenue fan et totalement obsédée de la plantain et du manioc parce que je me suis rendu compte du nombre un peu illimité de déclinaisons qu'on pouvait faire autour du manioc, par exemple.
Et c'est d'ailleurs le pain plat à la banane plantain que vous nous avez proposé. On a mis la recette sur le site de l'émission. Vous faites d'ailleurs aussi des gnocchi de banane plantain. Et Claire Vallée, c'est la recette de gnocchi asperges, fraises et poivre timut que vous nous avez proposé pour notre site. Juste un dernier plat que vous allez proposer au moment de la réouverture de votre restaurant Ona, le 1er juillet.
Je n'en ai aucun pour le moment.
C'est dommage.
Je ne vous dis rien, je vous garde en suspense jusqu'à la fin.
Suspense gardé. Merci beaucoup Claire Vallée et merci beaucoup à vous Glorie Cabé. Toutes les informations seront bien sûr sur la page des bonnes choses sur notre site franceculture.fr. Sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, vous pouvez bien sûr réécouter les bonnes choses quand vous le voulez. Avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Élise Leu. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des temps par Marc Weitzman.